Depuis le début de l'histoire de l'humanité, on peut voir que Dieu a constamment voulu communiquer avec l'homme, de façon régulière et toujours d'une façon que l'homme pouvait comprendre. Parce que c'est, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème-là, mais où quelqu'un vous dit quelque chose et il est convaincu d'être très clair et vous, vous n'avez rien compris. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive souvent. Mais Dieu a toujours parlé d'une façon à l'homme qu'il arrivait à comprendre. Et on peut commencer notre histoire avec un homme qu'on connaît de nom, peut-être on ne connaît peut-être pas son histoire, mais on connaît son nom, il s'appelle Abraham. Abraham, c'était un homme appelé que Dieu a choisi pour faire avec lui une promesse, un pacte avec lui, un pacte avec sa descendance. Cet homme, Abraham, il venait d'une famille de sculpteurs, il y a très très longtemps, on est vraiment à au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Et dans Genèse 12, on peut voir Dieu qui s'adresse à Abraham. Et il dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, c'est Dieu qui s'engage à une promesse envers Abraham. Il ne demande rien en retour, il s'engage. Il y a différentes circonstances qui traversent la vie d'Abraham, mais on sait qu'il avait 75 ans quand Dieu lui fait cette promesse-là. 75 ans. Mais Abraham, c'est un homme qui a vécu longtemps, et après quelques différentes circonstances de vie, ce même Dieu vient renouveler sa promesse avec Abraham alors qu'il était âgé de 99 ans. Abraham était âgé de 99 ans lorsque Dieu vient lui annoncer qu'il s'appellerait Abraham. Alors, je vais lire le texte en Genèse 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit « Voilà quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. » On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et ainsi que tes descendants. Au fil des générations, ceci sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants le pays où tu séjournes en étranger, puisque je rappelle qu'il a quitté son pays, le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Alors donc Dieu s'engage d'une promesse à un homme à maintenant une promesse avec toute la descendance de cet homme. Donc on passe d'une promesse à un homme à une promesse à une famille en entière. Dieu agrandit son message pour l'homme. Et c'est là que commence la promesse sur laquelle le peuple d'Israël se tiendra des années plus tard, parce qu'on peut faire un petit bond dans le temps. Je n'ai pas le temps de faire 4000 ans d'histoire avec vous en détail, mais je me permets de faire un petit bond dans le temps pour continuer d'observer Dieu dans sa volonté de communiquer avec nous. Des années plus tard, 400 ans plus tard, la descendance d'Israël existe bel et bien, mais elle est emprisonnée chez les Égyptiens. Alors, on vient de lire les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Il lui a même donné un nouveau nom pour sceller cette promesse, Abraham. Et la descendance d'Abraham est captive en Égypte. Alors, il y a une histoire très connue, un film Disney qui a même été fait là-dessus. Donc, Dieu choisit un homme dont le nom nous est familier. Il s'appelait Moïse. Pour honorer sa promesse, Moïse était un homme qui fut élevé en Égypte, mais qui s'enfuit. Il fut l'homme que Dieu choisit, comme nous pouvons le lire dans Exode, le dernier chapitre le dernier verset du chapitre 2 et le chapitre 3. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites. Il comprit leur situation. Donc Moïse était devenu berger du troupeau de son père Jéthro, le père de Madian. Il conduisait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était en feu, sans être consumé. Moïse s'étonna et dit : « Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant : « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Ne t'approche pas, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit : « J'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant son oppresseur. Oui, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, pour les faire monter dans ce pays, jusqu'au bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu les feras sortir d'Égypte, mon peuple, les Israélites. » On voit ici Dieu qui répète la promesse qu'on avait lue un petit peu plus tôt envers Abraham. Et il la répète devant Moïse en lui disant : « Tu seras l'instrument que j'utiliserai pour honorer ma promesse envers Abraham. » Voilà comment Dieu n'avait pas oublié ses premières promesses et avait bien adopté Israël comme nation. Alors donc Dieu renouvelle sa promesse envers les nations d'Israël à l'endroit que se nomme une montagne en Israël qui s'appelle le mont Sinaï. Il renouvelle sa promesse envers qu'il avait fait avec Abraham. Et il la renouvelle devant le peuple entier. Alors ça passe d'un homme à une famille et sa descendance à maintenant une nation bel et bien en soi, puisqu'ils étaient sortis d'Égypte. C'était des esclaves maintenant, ils étaient totalement indépendants. Et Dieu continue comme ça sa constante volonté de vouloir communiquer avec nous. L'histoire d'Israël continue pendant des années, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais je voudrais bien faire un nouveau bond de 500 ans avec vous, vers un homme qui s'appelait David. Alors David fut nommé roi d'Israël grâce à des circonstances extraordinaires, et j'aimerais que nous regardions la façon dont nous pouvons vraiment voir l'impact de Dieu dans sa vie. Un petit peu comment on a écouté Pauline nous expliquer l'impact de Dieu dans sa vie. Eh bien, David, le roi David, c'était un poète, il écrivait, c'était un artiste, il écrivait ce qu'il ressentait. Et donc je vais lire ici deux de ses psaumes, le psaume 23 et 24. Ils sont très très beaux. Et on peut vraiment voir la marque que Dieu a mise sur lui alors qu'on les lit. Je commence. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors, quel est cet homme qui a eu une rencontre tellement extraordinaire avec Dieu pour pouvoir dire « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Pour pouvoir dire « L'Éternel prend soin de moi, je ne manquerai jamais de rien. » Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que vous êtes ici. Si vous n'êtes jamais entré dans une église, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que vous n'êtes pas revenu depuis longtemps. Mais si on y réfléchit, certains d'entre nous ont eu la même expérience avec Dieu. Pour que nous soyons capables, je reprends les paroles de ce premier chant, de chanter « J'abandonne mes souffrances, mes tristesses, je les remets tous pour la joie du Seigneur. » C'est exactement dans la même lignée, c'est la relation avec le même Dieu. Continuons au psaume 24, qui parle de Dieu en tant que roi de gloire dans son temple. C'est à l'Éternel qu'appartiennent la terre avec tout ce qu'elle contient. Le monde avec tous ceux qui l'habitent sont à l'Éternel, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourrait monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourrait se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas aux mensonges et qui ne fait pas de serment trompeur, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'éternel, roi si fort et si puissant, l'éternel puissant des combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? C'est l'éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alors ici, on a un chapitre qui nous parle de la grandeur de Dieu. De la grandeur de Dieu. Et effectivement, c'est écrit sous une forme de poésie. On le ressent bien ici. David était un homme dont la vie était marquée par la présence, par la constante présence de Dieu sur celle-ci, grâce à sa foi extraordinaire. Si on peut bien caractériser David pour quelque chose, c'est qu'il avait confiance en Dieu. On le voit dans ses écrits. Beaucoup d'entre nous connaissons peut-être l'histoire, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, l'histoire de David et Goliath. Est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire de David et Goliath? Oui. Beaucoup, hein. C'est une histoire très connue. C'est bien ce même David dont on parle qui va apporter à ses frères quelque chose. Ils sont sur le champ de bataille, ses frères. Et alors qu'il arrive sur le champ de bataille, il constate qu'un géant de l'armée adverse terrorise la nation que Dieu a choisie. Et David a une confiance fervente, on pourrait dire David a foi, ou David a confiance, c'est la même chose. David a confiance en Dieu, et dit même devant ce géant, pour trouver ça dans 1 Samuel 17, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le glaive, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Alors voilà un homme qui a compris la promesse que Dieu a faite à son peuple. Alors, imaginez un géant de 6 mètres, c'était la taille de Goliath. On a relevé le micro pour moi, et je ne fais pas 6 mètres. Non, c'est bon, parce que il faudrait monter très haut. Mais David, qui était en fait un fils de berger, hein, rien de très très exceptionnel, il dit avec ferveur, moi j'ai confiance en Dieu, et Dieu, il a choisi ma nation et la défendra. Donc David était décrit comme un grand roi, mais la caractéristique de ce grand roi, c'est qu'il recherchait Dieu et avait foi en lui. Et la foi, c'est très très important dans ce qu'on est en train de voir maintenant. On y reviendra. On va continuer notre voyage temporel et regardons un peu la suite de l'histoire d'Israël. Donc, vous imaginez bien, David, c'est moins 1000 avant Jésus-Christ. On continue notre histoire. On peut voir que des hommes marqués par Dieu se lèvent. On les appelait prophètes. Et ces prophètes-là, ils annoncent l'arrivée d'une nouvelle époque. Ils annoncent l'arrivée d'une époque où les promesses de Dieu seront pas disponibles pour un homme, une famille et sa descendante, une nation. Non, ils seront disponibles pour tous les hommes. Ils seront disponibles pour toutes les nations. Dans Jérémie 33, je vous lis, « Voici ce que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la nouvelle communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous pourront me connaître. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Un autre prophète peut être pris en exemple, Ézéchiel, au chapitre 36. « Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur le territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Dieu décide de diriger ses promesses dans un plan assez grandiose d'un homme, Abraham, vers toutes les nations. Et bien sûr, on a souvent entendu parler du Fils de Dieu Jésus, mais on ne comprend pas toujours son impact pour nos vies. Si nous faisons un bond, on était en moins 1000, maintenant on arrive à Jésus-Christ, à l'époque de Jésus, nous pouvons voir qu'il est venu pour accomplir cette promesse que les prophètes ont citée avant. Donc c'était bien annoncé, et permettre à Dieu de faire une nouvelle sorte de promesse, non pas avec une nation, mais bien avec chaque personne dans la pièce, ici, en dehors, toute l'humanité. Et la promesse, c'est la suivante. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous pourrions continuer à observer ce qu'il se passe après la naissance de Jésus. Mais j'aimerais m'arrêter ici avec vous pour essayer de comprendre cette envie de Dieu à communiquer avec l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu tient tellement à te parler à toi? Le passage de Jean 3,7 nous exprime que Dieu aime le monde. Dieu aime ses créatures. Dieu t'aime. Dieu a donc fait une course de plus de 4000 ans pour te dire aujourd'hui devant ton nez, arriver et dire « je t'aime ». Je cherchais un moyen de pouvoir exprimer cet amour qui, je ne vous le cache pas, est difficile à exprimer, tellement il est grand. Et je suis tombé sur une lettre que j'avais lue il y a quelque temps. Quelqu'un a été recherché toutes les choses que, enfin beaucoup, peut-être pas toutes, mais énormément de choses que Dieu nous dit personnellement. Et il l'a mis sous forme de phrase. Pour chaque phrase dans la lettre que je vais vous lire, il y a un verset qui s'y tient. C'est une preuve biblique qui affirme l'amour que Dieu a pour toi. Léa a la lettre qu'il va afficher pour nous. Moi, je vais la lire. Ça va mettre une seconde à venir, mais ça va venir. Mais donc, écoutez bien cette lettre et pensez, c'est une annonce concrète de ce que Dieu le Père veut vous dire. Mon enfant, je regarde au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu étais créé à mon image. Je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'étais pas une erreur. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Mon image a été déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné. Je ne suis pas fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je veux répandre sur toi. Parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner, puisque je suis le père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espoir. Parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis de tes louanges, de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Tu fais partie du peuple que j'ai choisi. Je te désire te donner mon pays et tout ce qui s'y trouve. Il est en mon pouvoir de montrer de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Trouve ta joie en moi et je te donnerai ce que ton cœur désire. car c'est moi qui t'ai donné ces désirs de me plaire, je suis capable de faire pour toi plus que tu ne pourrais probablement l'imaginer. Car je suis la plus grande source d'encouragement. Je suis le Père qui te console de toute peine. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toute détresse. Comme un berger porte un agneau, je te porte sur mon cœur. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils, Jésus. Car mon amour pour toi se relève en Jésus, se révèle en Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi. Et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner cet amour. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois. Et rien ne me séparera de cet amour. Dans ma maison au ciel, il y a tant de joie pour un pécheur qui se change de vie. J'ai toujours été le Père et je serai toujours ton Père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Dieu veut nous connaître parce qu'il nous aime. Maintenant, depuis le début de l'histoire de l'humanité, il y a toujours une barrière entre nous et Dieu. Pourquoi? Il faut bien comprendre qui Dieu est. La Bible nous dit que Dieu est saint. C'est un mot compliqué parfois pour moi, alors je dis que Dieu est parfait. Il n'y a aucune trace de mauvaise chose en lui. Ésaïe 5, verset 16, « Le Seigneur des armées célestes montrera sa grandeur en instaurant le droit. Le Dieu saint manifestera sa sainteté par la justice. » Et si on regarde maintenant l'homme, on ne peut pas dire que c'est la sainteté qui le définit toujours. Peut-être, enfin je suis même convaincu, certains d'entre vous sont des personnes de qualité. Mais est-ce qu'on est parfait? Parfois, c'est impossible à accomplir. Si quelqu'un venait devant toi et dire, tu peux parler à Dieu si tu es parfait. Il n'y a personne qui arriverait à atteindre ce but-là. Romains 3, 23 nous explique ça sous les mots, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comme Dieu nous aime, il a décidé de remédier à cela, avec le plan Jésus. Jésus, il a vécu une vie parfaite, et pourtant il a été puni sur une croix. Jésus, il a vécu une vie parfaite et il a été puni injustement. Il est mort cloué sur une croix à côté de criminels. Jésus, c'était le Fils de Dieu qui venait sur terre et se faisait homme pour être puni à notre place. Je rappelle que face à la perfection, tout le monde avait besoin d'une solution. Et Dieu décide d'utiliser Jésus comme solution, de venir prendre pour nous nos péchés. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Si, à travers le message de Dieu, tu te sens jugé, eh bien c'est un mensonge. Tu es aimé, pas jugé. La raison pour laquelle Jésus est venu ici, c'est pour te sauver. C'est pour prendre tes péchés. La raison pour laquelle Jésus est venu, c'est que pour le moment où nous sommes faibles, il est fort pour nous. Et la nouvelle naissance, c'est cette expérience d'accepter Jésus dans son cœur et de renaître. Parce qu'on passe d'une vie ancienne à une vie nouvelle. On passe d'une vie où nous étions condamnés par ce péché qui était maître de nous, qui nous condamnait dans notre imperfection. Tout ce que le péché ne fait, c'est nous rappeler qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais avec Christ, on peut avoir une vie nouvelle, on peut être sauvé. Nous sommes sauvés par Christ. Mais c'est une belle nouvelle, ça, c'est une bonne nouvelle. Que n'importe qui le désire peut être sauvé par Christ. ça ne coûte rien, c'est gratuit. Maintenant, ceci laisse une décision devant nous. On se rappelle du roi David que j'ai pris comme exemple. C'était quoi la caractéristique qui faisait qu'il s'approchait de Dieu ? C'était sa foi, c'était sa confiance en Dieu. Si on a confiance en Jésus et on lui dit « Jésus, je te fais confiance que tu payes pour moi », c'est tout ce qu'il faut faire. Dieu fait le reste. Parce qu'à partir du moment où tu fais cette décision-là, alors quand Dieu le Père, du haut de sa justice, de sa sainteté, nous regarde, il ne voit pas nous et toutes nos fautes, il voit Jésus. Parfois ce message dérange parce qu'on n'aime pas, entendre qu'on a fait mal. Personne n'a à entendre qu'on l'a fait mal. Un enfant n'aime pas, mais un adulte non plus. Mais la perfection, qui est-ce qui peut se juger digne de l'atteindre ? Ceci laisse une décision devant nous. Est-ce que nous voulons accepter Jésus dans notre vie comme celui qui a payé pour nous ? Est-ce qu'on veut dire non au péché et oui à Jésus ? Dieu fait donc une course de plus de 4000 ans d'histoire pour arriver aujourd'hui devant ton nez et te le dire qu'il t'aime. Mais quel beau message ! J'aimerais bien faire une prière envers Jésus. Moi, je suis convaincu que Dieu ne fait rien par hasard. Et que si tu es ici ce soir, il y a une raison. Il y a une chose où il faut être très clair. Il n'y a personne entre nous et Dieu. Il n'y a personne qui peut venir décider à notre place. Il n'y a personne qui peut nous dire quoi décider à notre place. C'est une décision personnelle. Jésus, je t'accepte dans ma vie. Ce que je trouve impressionnant dans le message de l'Évangile, c'est que ça nous remet en question. La croix nous remet en question. Est-ce que si je dois me présenter devant Dieu, est-ce que je suis digne ? Est-ce que j'ai une solution ? Est-ce que j'ai un avocat auprès du Père qui va me défendre ? Ce message nous rend humbles. Ce message nous remplit d'une certaine crainte de Dieu. Mais moi, je suis ici pour vous dire qu'il n'y a pas de crainte à avoir, que Dieu ne fait pas peur, parce que Dieu est amour. Et tout ce qu'il a à nous offrir aujourd'hui, si on en a envie, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est son pardon. Alors, je ne sais pas comment le pasteur va enchaîner ensuite, mais moi, je voudrais vous donner la possibilité de prendre une décision pour Jésus. Que si vous avez envie, vous fassiez une prière à Dieu pour lui dire « Seigneur, viens dans ma vie. Viens prendre mes péchés. Viens prendre le contrôle de cette vie. Je dis non au péché, mais oui à toi. Et je reçois Jésus dans ma vie. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire cette prière ce soir ? Je vais inviter ceux qui ont envie de faire cette prière de vous lever. Et on va la faire ensemble. Parce que comme ça, on est plus à l'aise. C'est parfois pas facile quand on est en grand groupe. Mais j'invite ceux qui ont envie de faire cette prière-là, d'accepter Jésus, de se lever. Voilà. Je vais prier et je vous allez répéter après moi pour qu'on puisse être d'accord ensemble d'accepter Jésus.